C'est un nouveau mois qui commence, le mois de novembre. C'est souvent un mois d'écriture, de lecture, de réflexion. Et c'est parfois dans ce mois-là plutôt gris, je trouve, qu'il y a des prises de conscience qui se font et parfois même des changements dans notre vie. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une autre émission de Road Trip de vie. Et Road Trip de vie, c'est des gens qui ont décidé d'emprunter des chemins différents, qui ont fait des changements soit dans leur vie personnelle et professionnelle ou encore les deux, des gens qui ont fait toutes sortes de changements. Mon nom est Stéphanie Mété. Je suis la coach flyée, coach certifiée en PNL, mais qui aide les femmes à rayonner et se démarquer dans leur vie et leur entreprise. Mais j'aide aussi les hommes parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent aussi cette émission-là. C'est pour vous également. D'ailleurs, on aura Éric Lantier avec nous aujourd'hui, chroniqueur et conférencier également. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de ne pas réellement vivre la vie que vous vous êtes imaginée? Parfois, on se crée une vie en fonction de ce qu'on pense qui est bien pour nous, de ce qu'on nous a enseigné en modélisant nos parents, en modélisant nos amis. On s'achète une maison, on fait des enfants, on a une bonne carrière bien payante avec une belle pension. Mais est-ce que c'est réellement ce qui nous fait vibrer? Est-ce que c'est vraiment ce que nous, on veut? Ce serait intéressant d'avoir des statistiques là-dessus pour savoir c'est quoi le niveau de satisfaction des gens par rapport à leur vie. Hein? Mais on n'a pas ces statistiques-là, malheureusement. Et moi, j'ai toujours ressenti que j'étais différente parce que pendant que mes amis avaient une job stable, début vingtaine, moi, j'avais de grandes ambitions puis je rêvais déjà de conquérir le monde. Donc, j'avais l'air un peu folle face à mes amis. J'ai toujours aussi ressenti que j'étais différente parce que pendant que mes amis s'achetaient justement une maison, ben moi, je déménageais d'un endroit à l'autre, entre Gaspé, Québec, Australie, Gatineau, et je voyageais. Je partais avec mon sac à dos et mes amis, eux, regardaient pour leur hypothèque, leur maison. Et j'ai toujours ressenti que j'étais différente parce que pendant que mes amis devenaient maman, ben moi, j'étais en train de mettre au monde mon entreprise. Donc, j'ai souvent senti un décalement par rapport à ça dans ma vie, senti cette espèce de différence-là, mais en même temps, j'ai peut-être été différente si je compare à mes amis, mais je suis fière de la vie que j'ai. Puis je suis contente parce que je vis la vie que je me suis imaginée. Et c'est le sujet d'aujourd'hui et aussi le titre du nouveau roman de Christine Michaud. Il est « Temps de vivre la vie que tu t'es imaginée ». Donc, on va lui parler de ce deuxième roman. En fait, Christine Michaud a écrit 11 livres dans sa carrière, mais beaucoup de livres de développement personnel où est-ce qu'elle enseignait, donnait des outils aux gens, mais elle s'est lancée dans les romans. En fait, ça fait pas longtemps. L'an dernier, elle a sorti son premier. C'est son deuxième qui vient de sortir cette année. Puis je pense que c'est vraiment une nouvelle passion pour Christine qui le fait très bien, soit dit en passant, parce que son nouveau livre est vraiment extraordinaire. Et ça raconte l'histoire, en plus, d'une journaliste très occupée qui vit des changements dans sa vie. Donc, ça me fait penser un peu à moi, ce livre-là. Alors, j'ai très hâte de parler avec Christine Michaud qui nous fait toujours beaucoup réfléchir et qui nous inspire. On aura peut-être d'autres invités surprises aujourd'hui. Je dis ça comme ça parce que la journée s'est passée d'une façon assez particulière. Puis c'est ça aussi, hein, road trip de vie. C'est que des fois, on veut emprunter un chemin. Puis c'est un autre chemin qui se met devant nous parce que je devais avoir quelqu'un et je n'arrive pas à la rejoindre. C'est une nomade, donc des fois, c'est difficile de rejoindre les nomades. Mais j'ai Éric Lantier qui, lui, est arrivé tôt. Donc, je pense que rien n'arrive pour rien. Éric, tu vas m'accompagner en ce moment dans l'émission. Éric, bonjour.
Bonjour.
Donc, Éric, est-ce que tu aurais envie qu'on jase justement de ce sujet-là aujourd'hui, vivre la vie qu'on s'est imaginée? As-tu l'impression, toi, de vivre la vie que tu t'es imaginée?
Je te dirais que pas mal, oui, pas mal, parce que moi, je suis un rêveur, je suis un visionnaire. Puis quand je rêve la vie, je la vois d'une façon. Mais quand j'arrive dans cette réalité-là, il faut que je m'adapte parce qu'il y a des responsabilités, il y a des choix, il y a d'autres personnes qui ne répondent pas nécessairement comme moi je voudrais qu'ils répondent. Donc, il y a un ajustement entre le rêve puis la réalité. Mais je te dirais, là, oui, je suis pas mal dans ce que je vis, mais je suis en même temps un éternel insatisfait.
Ah ouais, hein? Hey, ouais. C'est intéressant, on se ressemble sur plusieurs points. Juste avant que tu rentres dans l'insatisfaction, je veux qu'on reste un peu dans le rêve, parce que c'est intéressant, on peut rêver toute notre vie, mm-hmm. puis être visionnaire sans développer sa vision.
Ouais.
Puis moi, mon père était très visionnaire, très rêveur. Lui, il s'imaginait justement conquérir le monde avec ses peintures comme artiste peintre, mais il n'arrivait pas à mettre ça en action. Il était beaucoup dans sa créativité, ce que j'appelle dans son cerveau droit. Donc, intuition, création, mais il ne mettait pas de plan d'action. Il y a ça aussi, hein, on a beau rêver et avoir les plus beaux rêves du monde, mais si on ne les met pas en action, là, on devient aussi insatisfait.
Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que moi, je vois le rêve comme une locomotive. Mais une locomotive qui ne traîne pas de wagon, là, bien, justement, elle n'a pas des gens qui suivent. Parce que si tu es tout seul dans ta locomotive et tu n'as pas des gens qui suivent, bien, tu as un impact seulement sur toi-même. Et moi, je me dis que, justement, les responsabilités, le plan d'action, bien, c'est de mettre une locomotive pour qu'il y ait des gens qui gravitent autour de ce rêve-là puis qui en profitent. Mm-hmm. Parce que les rêves qu'on a ne sont pas juste pour nous-mêmes.
Ben non. Il y a souvent un lien avec beaucoup, en fait, je dis souvent, mais presque toujours, un lien avec les autres, parce que souvent, ben oui, c'est dans la transmission, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus aux autres à travers notre rêve. Il peut y avoir des rêves un peu plus individuels comme le voyage ou des choses comme ça, mais on finit toujours par croiser quelqu'un sur notre route. Hein?
Ben oui, que ce soit quelqu'un qui nous sert un repas, qui nous sert un verre, ou quelqu'un à qui on demande le chemin, à ce moment, on est toujours en contact avec des gens. Notre sourire, notre attitude ou même leur rapport dans nos vies peut être touchant. Moi, je me souviens, j'ai eu des discussions avec des femmes qui servaient au restaurant, puis j'en ai appris sur leur vie. À un moment donné, je me souviens d'une serveuse qui, elle, faisait des études, tout ça. Puis c'est impossible que ça reste juste pour nous. Ce qu'on vit touche d'autres personnes.
Et plus on réalise nos rêves, plus je trouve qu'on incite les gens à réaliser les leurs. J'ai fait une publication sur Facebook cette semaine qui a fait beaucoup réagir où je parlais de la lumière que j'ai peut-être dégagée dans les dernières années. Ben, ça m'a éloignée des gens, mais ça a aussi inspiré d'autres. Fait qu'il y a des gens, des fois, quand ils nous voient réaliser nos rêves, ils s'éloignent parce que pour eux, ils comprennent pas, sont pas nécessairement d'accord avec nos choix. Mais il y a des gens que ça inspire puis que eux vont faire des changements suite à ça.
Oui, puis c'est pour ça que souvent, on cherche le pourquoi des choses parce qu'on cherche un sens. Mm-hmm. Mais si on pose l'autre question, pour qui je le fais? Bon, évidemment, je le fais pour moi parce que c'est mon rêve, c'est quelque chose qui est intrinsèque. Mais si je cherche à savoir, OK, mais qui ça va atteindre? Pour qui je vis ça aussi? Mais là, ça nous donne une toute autre perspective parce que ça donne un sens relationnel. Ça donne un sens en disant, vers qui, là, j'anticipe rencontrer dans ce projet-là? J'aurai pas toutes les réponses parce que c'est ça qui est magnifique dans la vie. Ce sont les surprises. Mm-hmm. C'est les surprises. Certaines sont très agréables puis produisent une joie. D'autres sont moins agréables. Mais qu'est-ce que ça produit? Mais ça renforce notre endurance, notre ténacité, notre persévérance, notre sens du devoir, etc. Mais ce qui stimule tout ça, je pense que c'est un rêve, c'est une vision positive des choses.
Ouais, puis quand on commence à poser des actions, puis qu'on voit qu'on avance vers le rêve, ça aussi, ça nous motive, ça aussi, c'est super excitant. Et là, tu parlais tantôt, je rattrape ce que tu disais au début, tu parlais d'insatisfaction, que tu es un éternel insatisfait. Donc, parle-moi de cette partie-là insatisfaite de toi.
Ah, ben là, je vais dévoiler une partie de ma vulnérabilité.
Tu es tombé sur la route aujourd'hui et tu devais être dans l'émission pour parler de ta vulnérabilité.
Oui, j'ai eu de la difficulté à l'admettre, ça, que j'étais insatisfait parce qu'à un moment donné, je voyais ça dans ma perception de cette réalité-là. C'était quelque chose de négatif. Mais là, je le vois comme plutôt comme un tremplin en disant « Je pars de mon insatisfaction, mais dans le fond, c'est pour améliorer quelque chose. C'est pour embellir quelque chose. » Et j'ai appris à apprivoiser mon insatisfaction, puis l'orienter à ce que ça me détruise pas, puis ça détruise pas les autres. Donc, je suis pas satisfait de ce que je vis sur le plan professionnel, je suis pas satisfait dans les relations, mais maintenant, comment positivement je peux changer les choses pour retrouver la joie, la sérénité, retrouver l'équilibre? Et j'ai réalisé que souvent, les zones d'insatisfaction me demandaient des efforts. Ça me pousse à sortir de ma zone de confort.
Est-ce que ça se peut que ce soit tes attentes qui sont élevées? Parce que si, par exemple, dans ton plan professionnel ou personnel, t'es pas satisfait, c'est possible que tes attentes soient trop grandes, hein?
Ben, je pense que c'est ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai justement... c'est quoi l'expression quand on voit un plat, j'ai l'appétit plus grand que la panse?
Ouais, ouais.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Puis ça se reflète dans tous les domaines de ma vie. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'apprends à l'apprivoiser. C'est quelque chose que avant j'apprenais à fuir ou à ne pas accepter. Là, je me dis non, je dois vivre avec. Et ça commence par l'identifier, dire « Ah, là, c'est parce que je suis insatisfait que je veux changer les choses. Maintenant, est-ce que je peux voir le portrait différemment? Tu » sais?
Puis ce qui nous aide aussi à ce niveau-là, dans les attentes, c'est, je sais que c'est pas facile, mais c'est d'être plus dans le moment présent parce que quand on est dans la projection du futur, c'est bon de s'imaginer comment ça va se passer le futur, mais si on est trop dans la projection puis dans l'idéal, c'est là que parfois on est déçu puis parce qu'on s'attend à des choses, mais aussi les attentes, c'est qu'il faut les communiquer. Tu sais, à un moment donné, t'as bien beau avoir des attentes envers ton conjoint, envers ta conjointe, envers ton travail, mais si tu les gardes pour toi intérieurement, ben personne ne les connaît, tes attentes, là.
Tout à fait. Puis tu touches un bon point parce que moi, avec mon épouse, moi, je suis dans la projection. Elle est dans le moment présent. Donc, moi, je dois apprendre à m'ajuster. Puis elle aussi. Mais ce que je trouve intéressant, lorsqu'elle vit, par exemple, une insécurité, et là... Je lui dis, OK, ça, c'est ta réalité présente que tu vois, là. Mais demain ou tantôt, ou les démarches qu'on va faire vont nous sortir de ce malaise-là à un moment donné. Donc, on devient comme deux forces complémentaires. Elle me ramène à ici et maintenant, là. Mm-hmm. C'est quoi qu'on vit? C'est qu'est-ce qui se passe? Puis moi, j'ai besoin d'être ramené là.
Ben moi, c'est ça. Moi aussi, la même chose avec mon chum, il me ramène. Parce que moi, je me vois déjà en voyage. Là. T'sais, moi, je suis comme, hey, on s'en va-tu en Thaïlande? Hey, on va être le fun, on va faire ça. OK, Steph, ça va coûter combien? On part quelle date? OK, est-ce qu'on peut se le permettre? Ta-ta-ta, t'sais. Fait qu'il va me ramener à ici, maintenant, présent. Ça veut pas dire qu'on ira pas dans mon rêve. Mm-hmm. Mais c'est juste de vraiment installer les choses parce que sinon, moi, je serais déjà partie. Là. Alors, Éric, je te garde. En tout cas, j'espère te garder. On va faire une courte pause au 94.5 Unique FM et on sera de retour dans les prochaines minutes. Aujourd'hui, on parle justement de « Il est temps de vivre la vie qu'on s'est imaginée ». C'est en lien avec le titre du nouveau roman de Christine Michaud qui sera avec moi un petit peu plus tard à l'émission.
Chanson souvenir sympathiquement vôtre. Les chansons d'hier et d'aujourd'hui agrémentent votre dimanche. Elle a les yeux revolver. Vous sirotez un doux plaisir et la tendresse sera à son comble.
Je supplie. Chanson souvenir avec Max Baugé, le dimanche 16h au 94.5 Unique FM. Je les laisserai
t'emporter. Derrière-le-volant.net. Passez une heure dans le monde automobile avec Jacques Deshaies et ses collaborateurs. Derrière-le-volant.net.
Cliquez « J'aime » sur Facebook.
Chaque semaine, l'émission Derrière le volant vous présente de l'actualité automobile, des essais routiers, des conseils pratiques. On parle de salon automobile et surtout de nouveautés. Soyez là.
Culture géniale prend tout son sens.
Chacun et chacune, on a notre histoire de cette association des auteurs de l'Ontario français qui est vitale.
La question du vieillissement, souvent on dit que c'est la seule façon de continuer à vivre.
C'est le prix du silence. Ça coûte très cher, se payer du silence.
On a toujours pris pour acquis que la terre nous appartenait alors qu'on en est un peu les locataires.
Culture géniale, avec Jean-Paul Moreau, dimanche 13h au 94.5 Unique FM.
Ici Max Baugé. Sous la luminosité de la Voie lactée, le samedi soir, la fête prend son envol à la cadence et à la mesure des rythmes ensoleillés. Le rythme compas direct, sans omettre l'effet culturel et le journal de la fin de semaine.
Espace haïtien, avec Max Baugé. Samedi 19h, au 94.5 Unique FM.
Derrière-le-volant.net.
Passez une heure dans le monde automobile avec Jacques Deshaies et ses collaborateurs. Derrière-le-volant.net.
Cliquez j'aime sur Facebook.
Chaque semaine, l'émission Derrière-le-volant vous présente de l'actualité automobile, des essais routiers, des conseils pratiques. On parle de salon automobile et surtout de nouveautés. Soyez là.
Merci d'être avec nous au 94.5 Unique FM à l'émission Road Trip de vie où je rencontre des gens qui ont décidé dans leur vie d'emprunter des chemins différents. Le sujet aujourd'hui, qu'on parle, c'est « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée ». En fait, c'est le titre du nouveau roman de Christine Michaud qui sera à l'émission dans la deuxième partie de l'émission. Et là, je suis avec Éric Lantier qui est mon chroniqueur. Il vient de temps en temps faire des chroniques, mais aujourd'hui, il est là pour parler de ce sujet-là. Je trouvais que c'était une bonne personne pour parler de ça. Il a tellement une belle expérience de vie, Éric. Donc, c'est sûr que pour se rendre là, tu sais, parce qu'il y a tout, on a tous des moments dans notre vie où on a des prises de conscience qui fait qu'à un moment donné, oui, on la vit, la vie qu'on a toujours imaginée. Mais est-ce que toi, tu as l'impression que tu l'as toujours vécu ou il y a eu justement des moments clés dans ta vie qui ont fait en sorte que, justement, tu t'es mis à vivre plus la vie qui te ressemble?
Écoute, quand tu dis ça, là, tu me fais remonter en 2012-2013, quand ma femme, ma première épouse, était en crise d'anxiété. Parce que on a découvert, justement, à l'automne 2015, qu'elle avait un syndrome d'anxiété généralisée. Et pendant 5 mois, son anxiété était maltraitée. Elle était en dépression. Et le 6 avril 2013, elle s'est enlevée la vie. Et ça a été un choc pour moi là, quand je l'ai retrouvé.
Tu t'en attendais pas du tout?
Oui, mais la veille, elle avait tellement à se réveiller et à dire « Regarde, Éric, je vais bien. Je vais tellement bien, j'ai bien dormi. » Elle dit « Mon problème, là, c'est pas l'anxiété, c'est le sommeil. Puis là, j'ai bien dormi, je vais bien. » Et le pire, c'est que je savais que ça, c'était comme... Ça fait partie du processus, là. Ouais. Il y a une remontée.
Ouais, mais est-ce que réellement on pense ça? T'sais, je veux dire... Oui, ça fait partie du processus. Tu sais, quand on regarde les films, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais quand ça se passe dans notre vie à nous, est-ce qu'on prend le temps d'analyser ça à 100%?
T'sais? Non, c'est ça. Je me suis fait déjouer. Alors, mais je me suis senti coupable longtemps.
C'est ça que j'allais dire.
Parce que quand je suis parti aller chercher du lait d'amande, il y a une petite voix qui me disait « Retourne à la maison ». Puis je l'ai rationalisé. J'ai dit « Pourquoi j'ai pas écouté cette intuition-là? » Là, ça m'a rongé pendant des mois et des mois. Mais je fais une histoire longue courte là. C'est qu'à la fin de cette épreuve là, quand j'ai surmonté cette épreuve là, j'ai réalisé une chose. C'est que finalement, c'est bon que ce soit cette épreuve là qui m'est arrivée parce que mon épouse, elle a perdu son conjoint à cause du cancer. Puis, je pense que j'étais moins équipé pour faire face à une conjointe qui est atteinte du cancer puis l'accompagner à l'hôpital.
Là, tu parles évidemment de ta conjointe actuelle.
Ma conjointe actuelle, oui, c'est ça. Mais si la vie m'avait envoyé comme épreuve que ma femme, Carole, ma première femme, était atteinte du cancer, j'aurais trouvé ça plus difficile que de vivre l'épreuve que j'ai vécue. Fait que c'est comme si l'épreuve était tough de voir ma femme sans vie, de voir mon impuissance, de voir mes manquements. Mais en même temps, même si c'était difficile sur le coup, si je fais une rétrospective, c'était si j'avais à choisir entre une épreuve puis recommencer, je reprendrais celle-là. Et je suis content que justement, Carole, ma première épouse, elle n'est pas morte à cause du cancer. Parce que là, ça aurait été une épreuve que j'aurais trouvé ça encore plus difficile à passer au travers.
Puis des fois, ben en fait, on l'entend, mais puis je veux pas généraliser, Éric, en disant ça, mais on entend souvent dire que tu sais, les hommes ont quand même les croyances qu'ils doivent être forts, les croyances qu'ils doivent être l'homme de la maison. Donc c'est difficile parfois pour les hommes de vivre justement leur vulnérabilité. Je sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus, mais pour une femme, on est habitué que quand ça va pas, on se parle entre filles, puis on pleure ensemble, puis tu sais, comme je te dis, je généralise pas, mais chez les hommes, ça peut être plus difficile. Même juste mon chum, c'est rare qu'il va me parler de problèmes, tandis que moi, je vais être la première à y parler des miens. Donc, comment toi, tu l'as vécu, cette partie-là?
Ben, écoute, c'est justement, moi, j'étais très dans la répression des émotions, éviter tout ce qui est en rapport avec les émotions. Fallait que je sois fort, fallait que je sois un gagnant, fallait que je sois invulnérable, que je cache mes faiblesses, que je sois persévérant.
Ça fait beaucoup, ça.
Ouais. Ouais, mais je suis un homme. Puis surtout que moi, je suis pas manuel. Fait qu'il faut que je prouve encore plus ma masculinité parce que je me sens dévalorisé le fait que je suis pas manuel, que je suis un artiste dans ma tête, dans mon cœur.
Mm-hmm, je comprends.
Tu sais, je suis un visionnaire, je suis un rêveur. Ma mère disait toujours, toi, t'es un grand rêveur, Eric. T'sais. Alors, mais cette épreuve-là m'a obligé à être connecté à mes émotions parce que là, je pouvais plus les contrôler. Ils se vivaient, puis c'est... Puis en même temps, c'est comme si j'avais perdu ce qu'il y avait de plus précieux pour ma vie, fait que je me disais, who cares?
Ouais, c'est ça. Rendu là, c'est comme, ça te dérange même plus que ça sorte de toutes les façons. Hein?
Ouais, puis ça me dérange même plus qu'on me juge, qu'on m'étiquette. C'est comme, là, c'était comme ça avait tout fait exploser là, dans mon cœur et dans ma tête en disant, hey, j'ai plus rien à protéger, j'ai tout perdu.
Ouais. Mais c'est drôle, hein, parce que c'est vrai que des fois, quand on vit une épreuve, puis moi, quand j'étais jeune, j'avais un petit côté, un côté rebelle. Là, aujourd'hui, ça s'est traduit en femme un peu plus polie, là. Mais, mais quand j'étais plus jeune, puis que je vivais des émotions fortes, ça sortait tout croche. Puis j'allais, tu sais, je me gênais pas à aller caler la bouteille de vin au bar, puis à dire à tout le monde autour de moi qu'est-ce que je pensais. Tu sais, quand j'étais plus jeune. Évidemment, aujourd'hui, ça s'exprime beaucoup différemment parce que je les vis mieux, mes émotions. Ah. Mais tu sais, des fois, quand on vit quelque chose, ça sort tout croche, hein? Mm-hmm. Ça sort tout croche parce qu'on n'a pas été habitué à les vivre. Fait que on apprend avec le temps, mais je pense que peu importe l'âge qu'on a, si on ne fait pas ce travail-là sur nous, ça peut sortir tout croche toute notre vie.
Oui, ben c'est pour ça que j'ai suivi 3 thérapies et j'ai fait le chemin de Compostelle. Alors, c'est certain que... au début, je voyais les thérapies comme des punitions, en disant « Ah, j'ai besoin d'être réparé, je suis pas à la hauteur, je suis pas correct, ça veut dire que je suis pas bon, ça veut dire que je suis défaillant. » Mais là, aujourd'hui, là, les thérapies, je vois ça comme « Wow, c'est un cadeau que je m'offre pour grandir, pour croître, pour mieux vivre. Mm-hmm. » Puis ça a été extraordinaire parce que ça m'a fait cheminer. Ça m'a amené à prendre conscience de la dimension émotionnelle. Puis quand je commence à déconnecter, là je m'en rends compte. Là, je me dis, hey, là, je suis déconnecté, Eric. Là. Reconnecte-toi, là. Puis ça me fait tellement du bien à ce moment-là.
Oui. Puis c'est ce qui te permet de vivre la vie que tu as toujours voulu vivre. Oui.
Exactement. Là, je suis en train de la vivre.
Oui.
Puis étant insatisfait malgré ça.
T'es encore insatisfait?
Ouais, je veux. Je suis. Comment je te dirais ça? C'est comme si je suis satisfait, mais je veux plus. Je sais pas si c'est
Tu veux
dur.
Toujours plus?
Ouais, je veux toujours plus.
Puis qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir plus? D'avoir... La question de la coach.
Ben, justement, d'avoir plus maintenant, c'est d'être plus recentré, puis de moins m'éparpiller, puis de revenir sur l'essentiel. Puis de dire, regarde là, j'en fais trop, pensant que le plus que je fais va me rendre heureux. Mm-hmm. Puis moi, maintenant, je suis insatisfait de ce qui me rend pas heureux. Ouais. C'est que mon insatisfaction a pris une autre dimension maintenant.
Ben ça, c'est normal aussi, insatisfait de ce qui te rend pas heureux. Puis qu'est-ce que tu veux dire par ce qui te rend pas heureux? Les choses négatives autour de toi, c'est ça que tu veux dire?
Pas nécessairement. Comme là, tu vois, je dois faire des choix professionnels. Hein. Mm-hmm. Je suis un homme, je suis attaché à cette... Mais mon insatisfaction de ce que j'en ai trop dans mon assiette m'amène... Pourquoi j'en prends conscience? C'est que je suis en train de perdre des beaux aspects de la vie relationnelle avec des gens que j'aime.
Oui. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est de ramener l'équilibre. Hein?
C'est ça.
C'est souvent ces sujets que j'ai parlé, en fait, toute la semaine. Parce que mardi prochain, du côté du Ramada de Gatineau, je donne une conférence sur l'équilibre avec mon amie Annick Laprade, qui est aussi chroniqueuse. On va donner une conférence sur l'équilibre. Puis l'équilibre, justement, on parle de l'équilibre, mais pas de l'équilibre parfait. Parce que, justement... On se met tellement de pression. Puis là, toi, tu parles, t'es un homme. Mais les femmes aussi, hein? On se met de la pression. On se met de la pression parce que les femmes, nous, on veut être bonnes dans tout. Mm-hmm. On veut être une bonne mère. On veut être une bonne amie. On a une bonne conjointe. On veut être une bonne carriériste. On veut être bonne dans tous les aspects de notre vie. Puis on se met tous ces chapeaux-là, mais il faudrait que ce soit tout égal, hein? Donc, des fois, on se met cette pression-là. Puis, tu sais... Il y a deux aspects là-dedans. C'est que oui, l'équilibre, je pense, c'est important de faire des actions pour justement équilibrer le plus possible. Mais le déséquilibre, comme il est dans l'équilibre, à chaque fois que tu as l'impression d'atteindre l'équilibre, bang, il y a quelque chose qui arrive.
Ouais.
Des fois, ça nous arrive. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Hey, ma carrière va bien, ça va bien avec mon chum, ça va bien avec mes amis, j'ai du temps pour tout. Puis là, clash, il y a quelque chose qui arrive. Comme tantôt, justement, mon courriel a complètement planté. J'ai tout perdu mes courriels, puis moi, je pensais aller au spa cet après-midi. Donc, finalement, quand que je pensais atteindre l'équilibre de comme, ah, oh, c'est le fun, j'ai travaillé un petit peu, mm-hmm. je vais aller au spa, c'est vendredi, bang, mon courriel vient de planter. Fait que là, finalement, cet après-midi, je vais devoir régler mon courriel. Mais pas que je le choisis aussi, mais Il y a toujours, on dirait, quelque chose qui arrive quand ça va bien. Hein?
Oui. Mais c'est bon parce que on est dans, à ce moment-là, disposé. Si ça va bien, c'est qu'on est disposé, on a un minimum de ressources pour faire face, oui, justement, à cette épreuve-là, d'une part. Puis d'autre part, la vie serait tellement plate si on pouvait tout anticiper ce qui va se passer.
Ben, c'est sûr.
C'est dans l'imprévu que, justement, on découvre de belles choses. C'est, puis même moi, je sais pas si t'es comme ça, là, mais quand je vais en voyage, là, même si je vais à un endroit que j'ai déjà été, j'anticipe comment ça va se passer, mais ça se passe rarement comme c'est anticipé dans
comme
ma tête.
Comme t'es un insatisfait, t'es jamais content.
Non, ben j'apprends à vivre. Non.
Mais non, je t'agace. Je sais que t'es quand même quelqu'un qui apprécie les choses,
ouais,
de la vie.
Ben ça, c'est ça qui amène le rééquilibre. Même si je suis insatisfait, et ça, c'est l'héritage de ma mère, elle m'a toujours dit, tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, je recherche, même si je suis insatisfait, à dire, hey, qu'est-ce qu'il y a de beau, là? Qu'est-ce qu'il y a de bon, là? Qu'est-ce que ça peut m'apporter, puis qu'est-ce que ça peut apporter de positif aux autres? Et parce que si on reste juste dans l'insatisfaction, là, ben, il y a quelque chose de malsain qui reste là. Il faut, oui, voir l'insatisfaction comme un tremplin. Moi, je le vois comme un tremplin. Et aussi pour une motivation à dire, est-ce que je peux vivre quelque chose de plus enrichissant? Puis des fois, la réponse, c'est non. Apprends à accepter que ça ne sera pas parfait.
Ah, c'est clair. Mm. Oui, parce que justement, quand on est trop à la recherche de la perfection, moi, je trouve que ça fait mal. Ça fait souffrir parce qu'on ne l'atteint jamais. J'ai coaché des femmes entrepreneurs qui étaient dans ce type de personnalité-là parce que c'est un type de personnalité aussi, la perfection, souvent un mécanisme de défense qu'on a développé dans notre enfance pour se protéger de certaines choses. Puis, les filles qui étaient dans la perfection, ce que j'ai remarqué, c'est que et elles voulaient toujours un diplôme de plus, par exemple, dans leur carrière. Ou, fait que, il me faudrait peut-être, faudrait que j'aille chercher ma maîtrise, faudrait que j'aille mon doctorat, faudrait que j'aille... Mais même s'il y avait tous ces papiers-là, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Donc, à un moment donné, je dis, c'est plus le papier, là, faut plus que tu travailles sur le papier. C'est correct, là, d'aller chercher des études, mais,
ben oui,
mais sauf que ça te comble pas. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, il faut aller travailler plus au niveau intérieur, au niveau des attentes qu'on a envers nous-mêmes, mais envers les autres aussi.
Oui. Puis tu touches un point. Puis l'autre aspect, moi, en étant père de famille, c'est que la vie idéale que je recherchais, malheureusement, pendant un certain temps de ma vie, j'ai voulu faire entrer mes enfants dans cet idéal-là. Puis je les ai fait souffrir. Mm. Puis justement, mon insatisfaction, j'ai pris conscience qu'elle atteignait d'autres personnes.
C'est là que ça devient challengeant.
Oui.
Ouais. Puis en même temps, j'imagine que c'était inconscient.
Ben, c'est sûr. C'est sûr.
Tu transmets ça. Mais ça, c'est intéressant parce que toi, t'es père. Moi, j'ai pas d'enfant. Mais c'est toujours la peur que j'ai de demain matin parce que je suis dans l'âge où je pourrais avoir des enfants demain. Et des fois, je réfléchis. Puis moi, je réfléchis beaucoup. Fait que j'analyse tout. Hein? Moi aussi, j'ai un côté rationnel très fort. Fait que là, je suis là. Ouais, mais tu sais, si on a des enfants, puis là, je transmets telle peur. Puis là, je transmets telle chose. Puis là, je dis ça trop. Puis là, tu sais, l'analyse, ça devient confortable. Ça devient confortable, puis peut-être que je sais pas si toi tu l'as vécu en tant que père, là, mais moi je trouve ça difficile, puis je suis même pas mère.
Ben oui, c'est difficile parce que justement, à un moment donné, quand on a juste notre être à penser, on peut accepter de vivre certaines limites, certains inconforts ou de travailler dessus, t'sais. Mais quand ça implique les autres, ben inévitablement, si ça crée un inconfort, si ça crée une tension dans la relation, ben, ça les affecte. Ben, qu'est-ce qu'on reçoit de bienfait de tout ça? C'est pas très enrichissant. T'sais, fait que d'en prendre conscience, c'est déjà une chose, puis de dire, hey, attends une minute, comment je peux le communiquer, comment je peux le vivre différemment? Puis des fois, c'est ça, on a besoin d'avoir l'accompagnement, que ce soit de coach ou de quelqu'un, d'avoir des conseils ou des gens qui ont plus d'expérience pour dire, hey, comment t'as vécu ça? Ouais. D'avoir l'humilité de dire, justement, j'ai besoin des autres.
Oui.
Puis c'est important, ça.
Puis c'est de savoir se poser les bonnes questions aussi.
Ah! Oui, vraiment. Ça, je pense que c'est numéro un, ça.
Oui.
Ben oui.
Puis dernière question, Eric, parce que comme le titre de l'émission, la thématique, c'est « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée », selon toi, comment est-ce qu'on fait pour vivre la vie qu'on s'est imaginée?
Ben, je pense que c'est d'apprendre à rechercher, à connecter avec son intérieur, connecter avec qui on est, puis de faire des petits pas dans une direction. Parce que, tu sais, si, par exemple, je dis, hey, moi, je veux faire le tour du monde, je veux être heureux, puis c'est ça qui va m'apporter le bonheur, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas les finances, puis c'est un rêve que je mets sur la tablette ou quelque chose, où je... ben, faisons des petits pas, tu sais, d'aller de l'avant, de dire, ben, je vais commencer par me faire un budget ou ouais. Je vais commencer par visiter un coin de pays que j'ai les moyens de faire, puis j'avance, puis je vais découvrir une autre culture. Ça. Mais de toujours commencer par un petit pas. Ouais. De ne pas attendre que la grosse affaire arrive.
De ne pas attendre de gagner le million pour le faire, notre tour du monde, justement.
Exactement.
Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que j'avais fait un sondage sur Facebook il y a de ça quelques années, mais j'avais eu beaucoup de réponses, à peu près 600 répondants.
Ouh.
Puis une des questions que je posais, c'était, c'était quoi votre plus grand rêve? Puis est-ce que vous l'avez réalisé? Il y en a beaucoup qui c'était non. Et pourquoi vous ne l'avez pas réalisé? Et l'une des réponses que j'ai obtenues le plus, c'est parce que c'est impossible. Et ça m'a vraiment rentré dedans parce que je me disais, ben voyons donc. Fait que quand les gens me disent ça, je leur dis toujours, ben est-ce que quelqu'un l'a déjà fait quelque part? Puis je pense qu'une des premières bonnes étapes, c'est d'aller rencontrer quelqu'un qui a vécu ce qu'on aimerait vivre. Mmh. Donc si par exemple, vous voulez faire le tour du monde avec vos enfants puis que dans votre tête, c'est impossible parce que c'est compliqué avec les enfants, il y a la maison, il y a l'argent, il y a ci, il y a ça, ben pourquoi vous n'allez pas rencontrer une famille qui l'a fait? Parce qu'eux vont être les meilleurs, je trouve, pour nous donner des conseils, des outils. Donc, une bonne étape. Ouais.
Et ça, c'est tellement beau, ça.
Oui, vraiment. Wow.
T'es à ta place, Stéphanie. Une bonne coach flyée.
Ben, merci, Éric. Et on va poursuivre la discussion dans les prochaines minutes avec Christine Michaud. On va parler de son livre Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. S'il y a bien une femme inspirante, c'est bien Christine Michaud. À chaque fois que je fais des entrevues avec elle, il y a des belles choses qui ressortent. Puis, justement, Christine et moi, on se faisait un gag l'année passée. Christine me dit, j'écris des livres juste pour venir à ton émission à chaque année. Donc, elle sera avec nous dans les prochaines minutes au 94.5 Unique FM. Merci, Éric. On va se revoir bientôt pour une prochaine chronique.
Bye. Oui.